Europe 1. Herminie Cadol. Il n'y a plus que les amateurs de lingerie de luxe qui connaissent son nom aujourd'hui. Et pourtant, elle est la créatrice du soutien-gorge moderne. Mais avant de révolutionner les dessous féminins, cette corsetière ambitieuse s'est illustrée comme communarde, un engagement qui lui vaut plusieurs confrontations avec la police. Je suis Virginie Giraud et je serai votre guide au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Herminie Cadol, l'anarchiste qui a inventé le soutien-gorge. Épisode 2. Un bon coup de ciseau. Nous sommes à Paris en 1880. Herminie Cadol, corsetière âgée d'une quarantaine d'années, vient d'être relâchée par la police après avoir participé à une manifestation interdite sur la tombe du communard Théophile Ferré. Elle s'en tire à bon compte. Mais la police, elle l'a dans le nez. Alors elle va tenter un coup. En 1871, juste après la fin de la Commune, elle a fait de la prison. Elle était détenue dans le dépôt des chantiers avec la militante Louise Michel. Cette prison était dirigée par un Versaillais, un partisan de l'ordre au service de la toute nouvelle Troisième République, le lieutenant Marcerou. Eh bien, Herminie va dire tout haut la vérité sur Marcerou. Un homme violent, qui malmenait les détenus bien au-delà de ce que le droit et la justice permettent. Ce sont des journalistes communards et militants qui recueillent les confessions des anciens détenus, dont celle d'Herminie. Elle est d'ailleurs la première femme à donner son témoignage au journal L'Intransigeant. Marcerou, bonapartiste, geôlier en chef du dépôt des chantiers, gardait ses prisonniers dans des cellules d'une saleté repoussante, rongée par l'humidité. Bah, si ce n'était que ça. Le chef de la prison battait les enfants et violait les femmes. L'élégant militaire qui portait beau avec sa moustache et ses cheveux bien coiffés était un monstre. Un jour, Herminie est témoin d'une scène affreuse. Marcerou fouette un enfant avec la gourmandise des sadiques. Incapable de rester sans rien faire, la corsetière invective le lieutenant. Elle le paye cher. En guise de représailles, elle est attachée à un poteau par des cordes si serrées qu'elle se retrouve en sang sous le regard ravi du lieutenant Marcerou qui demande à ce qu'on resserre encore les cordes. Pour les Versaillais, ces témoignages sont des vengeances des rouges. Il ne faut pas les voir autrement. Néanmoins, une enquête administrative est lancée par le garde des Sceaux. Herminie Cadol est écoutée comme témoin, mais elle sent bien que l'affaire n'ira pas loin. Pour elle, le vrai tribunal sera celui de l'opinion publique, puisque la justice ne fera rien. Et en effet, à la fin de l'année 1880, l'enquête administrative contre Marcerou prend fin, puisqu'il n'y a pas suffisamment de preuves contre lui, selon le garde des Sceaux. Herminie est déçue, mais les années 1880 vont lui donner l'occasion de rebondir d'une manière inespérée. Après avoir marié son fils et perdu son mari, Herminie décide de partir pour l'Argentine en 1887. L'essor économique de cette jeune république est exceptionnel et de nombreux communards y sont déjà installés. C'est là qu'en femme émancipée, maîtresse de son destin et de ses finances, la veuve Cadol ouvre sa première boutique de lingerie. L'entreprise est couronnée de succès. Dans son atelier, entre ses aiguilles et ses baleines à corsets, Herminie reste une militante. Elle fabrique des corsets à la mode qui font pigeonner les seins, étranglent fortement la taille et s'évasent sur les hanches, créant une silhouette rigide qui limite le mouvement du haut du corps. Bouger est difficile, respirer est une gageure. Quel objet de souffrance ! Alors un jour, Herminie prend une paire de ciseaux et coupe son corset sous la poitrine. Elle obtient une pièce capable de maintenir les seins si on y ajoute des bretelles et l'estomac est enfin libéré. Même si la deuxième partie du corset maintient le bassin, on peut respirer et bouger. C'est une révolution. Elle peaufine la décoration de sa création avec des rubans et appelle son modèle le bien-être. Mais c'est un modèle de quoi ? C'est une pièce de lingerie qui n'existe pas. Herminie décide de l'appeler le corselet-gorge. Maintenant, il va falloir le faire connaître et le commercialiser. Pour cela, il faut revenir en France. Herminie Cadol quitte Buenos Aires à l'occasion de l'exposition universelle de 1889. La première a eu lieu en 1851 en Angleterre. Il s'agit d'une sorte d'immense foire qui dure entre 3 et 6 mois. On y expose toutes les nouveautés et les gloires du monde. Napoléon III, qui était un empereur moderne, s'est vite intéressé à ce nouveau phénomène. La France a donc organisé la deuxième exposition universelle, puis la quatrième, la 7e et maintenant la 10e en 1889. Celle-ci a pour thème le centenaire de la Révolution française. Maintenant que la 3e République est bien établie, l'exposition doit refléter à la fois la grandeur de la République française, mais aussi la supériorité de ce régime politique sur les autres. Évidemment, vous vous en doutez, une thématique à la gloire de la République ne réjouit pas les vieilles monarchies. L'exposition est tout simplement boycottée par le Royaume-Uni, l'Allemagne, le Portugal et la Russie, entre autres royautés. L'exposition s'étend sur 96 hectares et son joyau controversé est la Tour Eiffel avec sa belle peinture rouge. Depuis son sommet, on peut contempler toute la ville, c'est spectaculaire. Au sol, on célèbre surtout les innovations industrielles. Certains pavillons ont même l'électricité. Herminie Cadol possède son propre stand au milieu de toute cette effervescence. Il faut imaginer les visiteurs béats devant ces mannequins affublés d'un corselet-gorge. Pour bien comprendre en quoi l'invention d'Herminie Cadol est révolutionnaire, il faut que je vous décrive un peu la mode des années 1880-1890. À cette époque-là, toute la silhouette féminine dépend du corset. Le haut du corps est rendu plus imposant grâce à des manches larges au niveau des épaules. On laisse de la place à la poitrine, puis on étrangle progressivement le buste jusqu'à la taille le plus possible. L'idée est d'avoir une silhouette en sablier. Les fashion victimes de cette époque parviennent même à se donner un tour de taille de 48 cm. Pour en arriver là, il faut s'astreindre quotidiennement au port d'un corset trop serré et les organes finissent par changer de place, chassés au-dessus ou au-dessous de la taille. Évidemment, tout ça cause un certain nombre de problèmes de respiration et de digestion. Dans un tel contexte, l'invention d'Herminie semble folle. Elle a osé libérer l'estomac et les poumons qui ne sont plus comprimés. On peut bouger le buste parce que la partie basse du corset passe sous les côtes. Si ce que je vous raconte ne vous semble pas très clair, essayez un vrai corset, avec des baleines et des lacets bien serrés, et vous allez comprendre. Bref, le corselet-gorge Cadol est remarqué, mais pas vraiment apprécié. Herminie est trop en avance sur son temps. Bon, c'est pas si grave, hein. Elle a de la suite dans les idées. En 1898, soit 9 ans plus tard, la corsetière dépose un brevet pour son corselet-gorge. Elle dessine précisément son modèle de face et de dos. Elle conserve des pièces de tissu solides, comme pour les corsets, maintenues par des armatures qui prennent la poitrine. En réalité, il y a une astuce qui va vous faire sourire. Il y a des modèles pour soutenir les fortes poitrines et des modèles pour rembourrer les petites poitrines. À cela s'ajoutent des dentelles et des froufrous pour l'esthétique et des lacets de serrage. La pièce du haut est liée à une autre pièce qui en serre la taille et les hanches sur lesquelles sont attachées des jartelles pour faire tenir les bas. C'est assez joli. Herminie Cadol présente à nouveau son corselet-gorge à l'exposition universelle de 1900 à Paris. Cette fois, la corsetière remporte la médaille de bronze de l'exposition pour son innovation. Elle s'empresse de faire imprimer des petits cartons publicitaires qui célèbrent ses succès. On peut y lire.
Corset Cadol, exposition universelle Paris 1900, médaille de bronze. Exposition d'hygiène de la médecine française, médaille d'or. Veuve H. Cadol, 24 rue Chaussée-d'Antin, Paris, 104 Cahiers, Pérou, Buenos Aires. Corset-gorge remplaçant le corset breveté en France et à l'étranger.
Cette fois, le succès est au rendez-vous. Et Herminie n'hésite pas à attaquer en justice les corsetiers qui imitent son modèle sans autorisation. Mais c'est finalement l'expression « soutien-gorge » qui se popularise en entrant dans les dictionnaires et les grands magasins. Avec le nouveau siècle, les mœurs changent. Les femmes, enfin certaines femmes, se mettent à rêver de liberté. Herminie ouvre une nouvelle boutique dans la prestigieuse rue Cambon. Elle emploie maintenant plusieurs dizaines d'ouvrières. Ironie du sort, la communarde est devenue une chef d'entreprise bourgeoise. La Première Guerre mondiale renvoie définitivement les corsets au fond des placards. En remplaçant les hommes au travail, les femmes ont besoin de toute leur liberté de mouvement. Le soutien-gorge devient la norme. Après la guerre, les femmes sont en pleine conquête de l'égalité. Herminie innove encore en 1921 en lançant le premier partenariat d'une marque avec une sportive professionnelle. Il s'agit de la joueuse de tennis Suzanne Lenglen. Herminie est maintenant une vieille dame. Elle passe le plus clair de son temps dans sa belle maison de Saint-Cloud où elle s'éteint à 82 ans en janvier 1924. Elle lègue à sa petite-fille une entreprise prospère. Marguerite Cadol poursuit les travaux de sa grand-mère et en 1925, elle crée pour Gabriel Chanel le Boyish Form, un soutien-gorge qui aplatit les seins pour garantir cette silhouette androgyne que la nouvelle reine de la haute couture est en train de lancer. La maison Cadol a continué à exister grâce à une lignée de femmes déterminées et créatives. Depuis quelques années, Cadol remet au goût du jour le corset, une pièce de lingerie de luxe avec des matériaux modernes pour sublimer les femmes et non plus pour les entraver. Pour en savoir plus sur le premier soutien-gorge d'Herminie Cadol, je vous invite à lire l'article que je lui consacre dans Madame Figaro. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Clément Ibrahim. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la rédaction et la diffusion, Nathan Laporte. À la coordination des partenariats, Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours sur l'application d'Europe 1 ou sur votre plateforme préférée, et tous les week-ends à 15h sur l'antenne. À très bientôt!